RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le ministre du Logement, Claude Maïch. Monsieur le ministre, merci d'avoir pris le temps de venir en studio.
Bonjour.
On se retrouve dans le cadre de la Semaine Nationale du Logement, mais avant d'aborder son programme très chargé, j'aimerais parler de l'éléphant dans la pièce. Je vais vous parler de la construction de logements au Luxembourg. Est-ce qu'on sait où on en est avec les difficultés qu'on a connues ces deux dernières années sur la VEFA? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de nouveaux logements ont été construits en 2023, en 2024?
Ben, on est toujours dans une situation assez délicate, assez fragile, bien que le marché s'est un peu amélioré, bien qu'il y a plus de transactions que l'année passée, bien que surtout ces transactions se concentrent sur les marchés des occasions, mais la vente en futur état d'achèvement a encore des problèmes et on ne sait pas si ce modèle qui était le modèle phare de la construction, de la commercialisation, du financement du secteur immobilier au Luxembourg, il va retrouver cette force qu'il avait dans le temps, et peut-être il faut chercher de nouveaux modèles ou peut-être plusieurs modèles qui seront soit soutenus d'un côté par la politique, encadrés d'une manière fiscale, mais aussi qui correspondent à la situation actuelle. Nous savons que nous avons un besoin de construction en logement qui est assez important, bien qu'actuellement la demande elle est toujours assez restreinte pour les nouvelles constructions. Donc on peut parler de deux crises, en fait. Une qui est à court terme, due à l'explosion des taux d'intérêt il y a deux ans, où le marché il s'est complètement arrêté, avec des répercussions quand même assez dangereuses pour le secteur de la construction, qui est en perte d'emploi, qui est en perte d'activité. Mais de l'autre côté, il y a toujours cette crise de l'immobilier au Luxembourg qui perdure déjà depuis des décennies, qu'on n'y arrive pas à construire assez de logements pour la demande qui, en règle générale, est quand même plus forte que l'offre, due à la croissance démographique, la croissance économique, la création d'emplois, etc. Donc, il faut retrouver un équilibre à court terme, mais aussi veiller à ce que les prix ne commencent plus à exploser, comme c'était le cas il y a 4, 5 ou 6 ans, où quand même on avait des croissances de valeur de 10% par année. Et ça, ce n'est pas une situation durable, donc ce n'est pas vraiment enviable de retourner dans cette situation.
Oui, surtout que le niveau des prix a baissé, hein, mais sur la VFA, ça n'a pas non plus été les 20% qu'on a connus sur l'existant. Donc je reviens sur les déclarations du directeur de la Chambre des métiers il y a de ça 3 semaines dans cette émission. Il a parlé de 6000 logements manquants. Je sais que les chiffres, c'est un peu compliqué de les avoir ces 3-4 dernières années sur le marché logement luxembourgeois, mais est-ce que c'est un constat que vous partagez, les 6000 logements qui manquent sur les 2 années de crise?
On ferait mieux avec 6000 logements supplémentaires. Et c'est vrai que déjà, les années précédentes, cette crise, on ne construisait pas assez, ou bien les biens devenaient tellement chers qu'il y avait une partie de la population qui ne pouvait plus se permettre de louer au Luxembourg, plus se permettre d'investir au Luxembourg et qui ont quitté le pays. Et justement là, il faut réagir, il faut garantir qu'à l'avenir, nous retrouverons un équilibre entre offre et la demande, et qu'il y aura des objets sur le marché qui correspondent à cette demande et des objets pour chaque portefeuille. Hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut se permettre de payer plus, alors ce sera celui qui fera le prix, mais il fixera aussi le prix pour tous les autres quand il n'y a pas assez d'offres et assez de variations dans cette offre. Je crois aussi qu'il faut un peu réfléchir si le modèle des typologies des logements correspond encore à la demande réelle. Il y a beaucoup de projets qui dominaient avec des logements à 2 chambres. C'est quelque chose qui correspond bien à chaque type de famille à peu près, qui donne une certaine flexibilisation, une certaine flexibilité de développement de la famille, du ménage. Mais de l'autre côté, on constate qu'il y a pas assez de logements pour des célibataires, des jeunes gens qui viennent s'installer au Luxembourg pour trouver un emploi, pour lancer leur existence au Luxembourg. Et de l'autre côté, il y a aussi une pénurie de logements pour des familles nombreuses avec plusieurs enfants, donc des logements à 4, 5 ou 6 chambres. Et là, je crois aussi que le secteur immobilier, mais aussi peut-être les administrations communales doivent réanalyser leur position et voir s'il ne faut pas varier plus l'offre sur le marché de logement, justement, pour répondre aussi à ces demandes-là. Mmh. Donc, si quelqu'un qui n'a besoin que d'un studio, il doit louer un appartement à une chambre ou bien à deux chambres, ou bien l'acquérir, il dépense plus qu'il le fallait. Et justement, là aussi, il faut trouver un équilibre entre les besoins réels de la population et ce qui est planifié et construit par le secteur immobilier.
Alors, votre prédécesseur me répondait régulièrement qu'il n'était pas le ministre de l'immobilier, mais il était bien le ministre du logement abordable. Dans ce contexte, j'imagine que vous avez une idée beaucoup plus précise de ce qui a pu être construit ou racheté par l'État sur les deux années, quasiment maintenant trois années de crise qu'on a connues.
Je crois qu'on ne peut pas faire la séparation entre logement abordable et logement en général. Il faut veiller à ce que chacun puisse bien se loger au Luxembourg. D'ailleurs, c'est le nouvel article de la Constitution de 2003 qui dit justement cela, que l'État veille à ce que chacun puisse vivre d'une manière digne et trouver un logement approprié au Luxembourg, que ce soit maintenant un logement abordable subventionné par l'État ou bien sur le marché privé. Il faut aussi voir que en principe, on ne veut pas de grande séparation entre ces deux systèmes. Même en ce qui concerne les loyers, les prix d'acquisition, justement parce qu'il y a aussi une classe moyenne qui souffre beaucoup de la crise du logement, qui parfois même avec deux bons salaires a des problèmes à avoir leur crédit auprès de la banque. C'est ça la situation qui se présente également. Donc je me vois plutôt comme ministre du logement en général. Bien sûr, je fais une politique qui essaie de développer l'offre en logement abordable, qui essaie d'associer tous les différents acteurs justement pour créer des logements abordables, qui essaie aussi de faire collaborer les différents secteurs. Le secteur public avec les promoteurs publics, les communes, les associations caritatives, mais aussi de l'autre côté le secteur privé, des développeurs, des promoteurs privés, le secteur de la construction privée, parce que soit on trouve une solution commune, soit on n'en trouve pas. Mmh. Et là, je vois beaucoup de potentiel encore de collaboration, justement, pour développer des projets en commun, pour assurer une partie du financement, par exemple, pour un projet privé, quand l'État rachète déjà une partie en VFA, alors le financement, il sera plus facile peut-être pour l'investisseur privé de l'autre côté d'avoir l'argent de la banque. Donc là, il y a encore du potentiel à développer au Luxembourg parce que je crois qu'on a trop longtemps séparé ces différents acteurs, sachant bien qu'au Luxembourg, quand on a du succès, c'est justement parce qu'on sait collaborer.
Alors vous avez justement mentionné on va revenir justement sur les appels d'offres et sur les projets qui ont été mis en place ces derniers mois. La question un petit peu plus précise, c'est on a parlé des rachats par l'État de plusieurs projets qui étaient éventuellement portés par des promoteurs qui ne pouvaient plus porter les projets. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien de logements vous avez réussi à racheter, à mettre sur le logement
On a bien évidemment des chiffres, mais je ne peux pas vous répondre maintenant par cœur, mais notre service communication vous rendra ces chiffres. En tout cas, nous sommes toujours en train de racheter. Mm-hmm. Donc, il y a des négociations qui sont toujours encore en cours. On communique à partir du moment sur des projets précis quand on a signé l'acte. Mm-hmm. Pas au niveau de la signature d'un contrat de réservation. Donc, c'est pour cela que parfois, ça semble avoir une certaine lenteur au niveau de la communication, mais je crois que c'est bien qu'il y a des négociations qui se font et qu'on ne communique pas en cours de négociation, mais le moment où l'acte il est signé, on peut communiquer. Mais on est toujours en train de négocier, on est toujours en train de ficeler les contrats de réservation. On a toujours une enveloppe budgétaire justement pour racheter des projets immobiliers en VFA. Et je ne veux pas dire que c'était uniquement des projets de développeurs qui avaient vraiment des problèmes financiers. C'était vraiment une bonne mixité, je dirais. C'était des projets de petits promoteurs, c'était des projets aussi de grands développeurs qui nous ont été proposés.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu de la bonne volonté aussi.
Il y a la bonne volonté, mais je crois aussi que parmi les développeurs privés, il y a cette réflexion que je viens juste de mentionner, de collaborer avec l'État et de ne pas se concentrer sur soi-même. Et de dire, bah, si on est capable d'unir nos forces, il y a l'État qui prend une partie. Mmh. Il y a une autre partie qui est désignée pour le marché privé, que ça donne déjà une position beaucoup plus forte par rapport aux banques, par rapport à d'autres investisseurs, parce que ça donne la confiance qu'au moins une partie est développée, parce qu'elle est financée par l'État, elle est acquise par l'État. Ça donne aussi une certaine garantie de mixité sociale dans ces nouveaux quartiers. Mm-hmm. Donc je crois qu'il y a parmi le secteur privé aussi cette ouverture de collaborer avec mon ministère, avec le gouvernement, avec l'État, pour veiller à ce que chacun puisse bien se loger au Luxembourg. Vous savez, les développeurs privés, le secteur de la construction, eux aussi, ils veulent que, par exemple, leurs salariés trouvent un logement au Luxembourg. Mm-hmm. Ils savent très bien que c'est difficile pour recruter, surtout pour recruter dans d'autres pays, pour des gens qui doivent venir s'installer au Luxembourg, hein, parce qu'ils sont ont besoin d'un logement qui parfois coûte trop cher. Donc là aussi, ces secteurs économiques qui développent le logement au Luxembourg savent qu'il y a un besoin de logements abordables et c'est pour ça aussi qu'ils sont prêts à collaborer avec l'État justement pour bien ficeler des projets communs.
Vous avez mis en place justement des aides pour permettre éventuellement à moyen terme à des entreprises de créer du logement pour la force de travail, pour les mains d'œuvre qui viendraient éventuellement pour le coup de plus loin. C'est ce que me disait la Chambre des métiers, les représentants de la Chambre des métiers. Est-ce que c'est quelque chose qui se profile à l'horizon ou est-ce qu'il va falloir attendre quelques années pour voir des structures de ce genre s'installer au Luxembourg?
Moi, personnellement, je crois beaucoup parce que je constate d'un côté qu'il y a beaucoup de secteurs qui dépendent de la main-d'œuvre étrangère et qui doivent aller recruter dans d'autres pays et pas exclusivement dans la grande région. Donc, ce sont des gens qui n'habitent pas juste 10 kilomètres derrière la frontière et qui peuvent venir au Luxembourg tous les jours, donc qui ont un besoin de trouver un logement au Luxembourg. Et là, quand je parle avec des décideurs économiques, des chefs d'entreprise, un peu de tous les secteurs, ils me font part de cette nécessité. Mmh. Et là, l'État a mis en place une structure, des aides étatiques qui parfois sont nouveaux, ne sont nouvelles et assez complexes encore, mais j'y crois beaucoup qu'on trouvera des solutions justement pour développer des projets pilotes et à partir d'un certain moment, je crois que dès qu'on aura des projets phares qui vont se développer avec cette formule, l'intérêt va augmenter encore une fois. Mmh. Là, l'État prend en charge directement 75% des frais d'investissement, mais les autres 25% sont financés indirectement sur une durée de 40 ans. On rembourse également des frais de gestion de ces logements, mais la seule condition est que chaque salarié qui par après peut profiter d'un tel logement doit être éligible pour le logement abordable, ce qui pour de nombreux secteurs quand même est le cas. On peut même aller plus loin et un peu plus innovatif et de dire, nous, en tant qu'État, on subventionne une partie d'un immeuble, alors une partie de cet immeuble-là tourne au-dessous du mécanisme de logement abordable et l'autre partie est pour le marché privé. Si une entreprise a encore un besoin pour, disons, des cadres ou des salariés avec un salaire plus élevé qui sont plus éligibles pour le marché du logement abordable, alors ils ont toute flexibilité de faire un mix. Donc là, il y a des possibilités, j'y crois beaucoup parce que le Luxembourg, les premières entreprises industrielles, dont la sidérurgie, surtout au Luxembourg, ils ont fait ça.
Oui, l'Arbed.
L'Arbed, comme dans le temps déjà, on en avait besoin d'une main-d'œuvre et d'un savoir-faire aussi étranger pour les attirer au Luxembourg. Et justement, pour pouvoir les loger, il fallait investir en tant qu'employeur aussi dans des logements. Et on réinvente en principe quelque chose, on relance en principe quelque chose qui est bien ancré dans l'identité industrielle du Luxembourg.
En prenant en compte le fait qu'à l'époque de l'Arbed, le mètre carré coûtait moins cher. Hein. Il faut quand même
le
souligner.
C'est vrai, c'est pour ça que à l'époque, l'Arbed, c'était l'Arbed qui finançait, l'Arbed qui investissait. Mmh. Aujourd'hui, c'est principalement l'État luxembourgeois qui prend en charge tous les frais, tout l'investissement, mais quand même la gestion du projet et surtout l'apport du terrain doit être fait par l'entreprise.
Après, ça reste un très beau coup de pouce hein, pour les entreprises. On attend avec impatience le premier projet pilote. Donc revenons aux chiffres, sachant que le Luxembourg doit, selon les chiffres officiels, construire 6000 logements par an pour satisfaire la demande et par la même occasion donc équilibrer le marché. Donc on parle de prix hein, quand je dis ça. On a évidemment été bien en dessous de ça ces trois dernières années et avant ça, on avait une moyenne de 3200 si je ne me trompe pas. L'avenir, vous le voyez de quel œil ?
Ah, c'est très très difficile d'avancer des chiffres. Je me fais des soucis parce qu'avec la crise actuelle, on a perdu une partie de notre capacité de production. Mm-hmm. Pour l'immobilier au Luxembourg. On a vu des faillites, on a vu des départs de salariés compétents et bien formés qui sont retournés dans leur pays d'origine. Et ça me fait quand même quelques soucis en cas de relance. Et je vois cette relance, elle est nécessaire justement parce qu'il y a toujours une forte demande en règle générale pour l'immobilier au Luxembourg. Là, je crains quand même de nouveau une explosion des prix. C'est pour cela qu'il faut bien agencer les mesures, ne pas aller trop loin et trop vite justement pour permettre au secteur de construction pour être prêt quand cette relance sera relancée. Mais j'y crois aussi à la flexibilité du secteur de la construction au Luxembourg qui est absolument capable de se positionner d'une autre manière. Jusqu'à présent, on disait qu'on pouvait construire plus si on aurait plus d'autorisations et surtout avoir des autorisations à courte durée. Aujourd'hui, on parle d'un deuxième phénomène, c'est justement le financement. Mm-hmm. Parce qu'avec des nouvelles réglementations dans le secteur financier, justement ciblées sur l'immobilier, c'est devenu plus difficile pour un développeur d'avoir le financement pour son projet, mais c'est devenu aussi plus difficile pour un ménage qui veut investir pour se loger soi-même ou bien pour le louer. Ça me fait aussi quelques soucis. Mm-hmm. La troisième condition est justement d'avoir un secteur de construction qui est prêt. Ce sont ces trois ingrédients-là qui doivent bien être agencés et justement pour donner le mix qu'il faut pour être capable de planifier, d'autoriser, de financer et de construire plus.
Mm-hmm. Alors revenons à cette semaine nationale du logement hein, qui commence officiellement jeudi. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir ? Quelles sont les conférences ou les stands à ne pas rater à la Lux Expo ? On m'a soufflé que vous seriez présent à la conférence sur l'innovation dans le logement par exemple. Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler ?
J'y crois beaucoup à l'innovation parce que j'ai constaté que le marché de l'immobilier au Luxembourg, il tournait tellement bien que peut-être on n'avait pas besoin d'innovation. Ou de créativité, de chercher de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Et je crois aujourd'hui, on est dans une autre situation. Et on constate que les différents acteurs deviennent de plus en plus innovatifs. Je constate aussi, comme je l'ai d'ailleurs déjà dit à beaucoup d'endroits, que les secteurs publics et privés sont plutôt ouverts à collaborer aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une sorte d'innovation quand on dit que l'État achète des projets VEPA auprès des développeurs privés. C'est une innovation quand on dit qu'on n'achète pas exclusivement, mais on est aussi prêt à louer des projets pour les relouer à des conditions abordables à notre population. Ça aussi, on peut le considérer comme innovation, mais je vois aussi que le secteur du financement, de la construction, du développement, de la conception architecturale et de l'énergie, par exemple, vont plus loin dans leur esprit d'innovation. Et ça, c'est bien, justement, dans un temps où on ne sait pas est-ce que le modèle VEPA va dominer encore une fois comme il a fait les décennies précédentes, où c'était plus facile, hein, parce mmh. qu'on développait un projet, on le vantait à 80%, ce qui était très très vite le cas. Normalement, il était financé, construit, et le promoteur pouvait clôturer ses livres. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cas, parce que les banques sont devenues plus réticentes. Peut-être c'est bien qu'elles sont devenues plus réticentes, mais il faut trouver alors des alternatives de financement. Est-ce qu'on peut réfléchir sur l'engagement de capitaux propres, par exemple, sous quelle forme? Est-ce que ce sont des grands investisseurs qu'il faudra trouver, qui maintenant devront plutôt investir d'abord dans les terrains, qui ne seront peut-être plus préfinancés par les banques, par des emprunts? Est-ce que ce seront des petits investisseurs plutôt avec une idée de tokenisation, par exemple, ou du crowdfunding? Ou est-ce que c'est l'idée qui fait toujours partie de notre programme gouvernemental du Biegerfonds, donc un fonds citoyen où chaque luxembourgeois ou résident pourra investir dedans, on récoltera donc de l'argent pour l'investir dans l'immobilier et assurer un certain rendement. Donc est-ce que ce sont ça les innovations? Il faudra voir. Donc je ne crois pas qu'il y a une idée qui est seule la bonne, mais je crois qu'on devra trouver et peut-être expérimenter l'une ou l'autre justement pour trouver le bon mix des mesures.
Oui, ce que l'organisation, les représentants des architectes au Luxembourg disent depuis un moment, c'est qu'il faut changer le modèle. En fait, là, aujourd'hui, c'est plus un blocage mécanique. Quand il y a eu la explosion des taux, les prix étaient tellement élevés que les gens ne pouvaient plus acheter, tout simplement, ou c'était plus intéressant pour les investisseurs. C'est pour ça qu'on a vu pas mal d'investisseurs se tourner vers d'autres solutions. Voilà, donc il faut quand même le souligner pour nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on recommence à construire. Donc que ce soit les promoteurs, que ce soit les banques, l'idée c'est de trouver une solution et éventuellement, comme vous dites, une alternative à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'était ces projets en VFA sur 2-3 ans. Et, alors est-ce qu'on peut éventuellement, vous en avez parlé 2-3 fois, aborder ce partenariat locatif public-privé? Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu rappeler le principe pour les plus novices qui nous écoutent, et comment est-ce qu'il avance ce programme?
On est en train de négocier des projets pilotes avec des développeurs privés. L'idée, elle est très simple. En fait, comme on l'a dit, on est ouvert à acheter des projets immobiliers pour les donner en location publique à des loyers abordables, mais on est également prêt à louer des projets et de les relouer à des conditions abordables aux locataires finaux qui doivent être éligibles justement pour le logement abordable. Bien sûr, je crois qu'on aura toujours une tendance à plutôt acheter que de louer, mais peut-être il y aura l'un ou l'autre développeur qui dira « moi je ne vends pas, je veux garder cet immeuble dans mon portefeuille, je veux peut-être le revendre un investisseur institutionnel qui justement est très intéressé à avoir un objet qui est loué à l'État, l'État avec une bonne réputation, une bonne bonité, et justement pour avoir un rendement très très raisonnable, mais quand même très très sûr et très assuré du côté de la bonité de ce locataire. Et là, on voit un potentiel supplémentaire justement pour développer des projets pour le logement abordable qu'on n'aurait pas pu développer autrement. Justement aussi parce que on parle maintenant un peu, je répète un peu les critiques de l'opposition ou d'un ou autre acteur, on dit ben non, on a les promoteurs publics qui doivent construire eux-mêmes sur leur propre terrain. Oui, ils font ça et on les soutient pleinement là-dedans. Ici, on vise plutôt d'avoir accès à des logements supplémentaires sur des terrains privés où on n'aurait pas d'accès en tant que fonds du logement, en tant que SNHBM ou en tant qu'autre entité publique, mais on pourra justement mobiliser ces logements pour le logement abordable avec ce mécanisme de partenariat locatif public-privé. Et une famille qui est logée dans un tel logement, ça ne l'intéresse pas qui l'a construit, qui est le propriétaire final, est-ce que c'est quelque chose qui se trouve sur un terrain public ou privé. La famille, elle est heureuse d'avoir enfin trouvé un domicile qu'elle se peut payer et avoir quand même quatre murs et un toit et justement développer leur vie et réaliser leur rêve de vie.
Alors, il y a un autre mécanisme qui existe déjà depuis un moment et qui a été optimisé ces dernières années, donc la gestion locative sociale. Est-ce que les incitatifs qui ont été mis en place, est-ce qu'ils ont réveillé un peu de l'intérêt? Parce que je sais qu'au Luxembourg, la gestion locative sociale, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très connu. Et pour ceux qui connaissaient et s'inquiétaient un petit peu du devenir de leur bien ou éventuellement de leur rendement, est-ce que là, avec les incitatifs qui ont été mis en place il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, est-ce que l'intérêt a un petit peu été réveillé chez les particuliers luxembourgeois?
Ben, en principe, dès le début, déjà, l'intérêt, il était là, justement parce que la gestion locative sociale est une réponse à une situation qu'on retrouve assez souvent. On parle beaucoup de logements inoccupés et parfois il y a des raisons pourquoi un propriétaire ne donne pas son logement en location. Il se dit peut-être j'en ai besoin, un besoin propre dans 3 ans, peut-être il y a les enfants qui retournent de l'université. Il y a tant de bonnes raisons, parfois aussi des propriétaires qui ont fait une mauvaise expérience avec des locataires qui n'ont pas reçu leur loyer, qui ont dû réinvestir après le départ de leur locataire, etc. Ici, le mécanisme de la gestion locative sociale règle tout ça. Donc, il n'y a pas de crainte qu'on ne reçoive pas son loyer. Il n'y a pas de crainte qu'il y aura des dégâts dans l'appartement, justement, qu'il faudra réinvestir après le départ du locataire, etc. Il n'y a pas de crainte à ce qu'on n'a pas un accès à court terme pour son propre bien, justement parce que le gestionnaire de cette location locative sociale, il veille à tout ça. Mm-hmm. Il peut toujours proposer un autre logement à une famille qui doit être relogée. Donc, c'est un modèle qui correspond justement aux besoins de ses propriétaires. Et c'est ça ce qui
fait... C'est clé en main.
S'il vous plaît.
C'est un peu clé en main, en fait. Hein. C'est pour les gens qui veulent pas
clé en main. Voilà. Donc, on peut vraiment... On ne s'occupe de pas grand-chose et on sait que le logement, il est respecté, qu'il est habité. On fait encore une bonne chose parce que dans une situation de pénurie de logement, de laisser un logement inoccupé, c'est quand même... Je crois que ces propriétaires-là ne dorment pas très bien la nuit, sachant qu'on pourrait aider une famille et on ne le fait pas. Bien sûr, de l'autre côté aussi, tous les mécanismes qui ont été mis en place par l'État, la reprise de frais de gestion de la part de l'organisme de gestion, mais aussi la presque liberté de la fiscalité, donc la déduction fiscale de 90%, ça a aidé. Maintenant, il faudra voir s'il faut tourner encore l'une ou l'autre vis dans l'une ou l'autre direction, justement, pour à convaincre encore les propriétaires qui ne sont pas encore. Moi, personnellement, je suis d'avis que ça doit rester absolument une des voies pour mobiliser des logements, parce que ça coûte le moins possible d'argent. On n'a pas besoin de trouver des terrains, on n'a pas besoin d'investir, on n'a pas besoin d'une seule autorisation. Ces logements existent déjà et on estime qu'il y a toujours des logements à la hauteur de 7 000, 8 000, 9 000 logements inoccupés au Luxembourg, et ça déjà présente un potentiel énorme. C'est pour ça qu'on discutera avec tous les organismes de gestion de la gestion locative sociale sur l'avenir et le développement futur de ces mécanismes pour pouvoir convaincre encore l'un ou l'autre propriétaire qui n'est pas encore décidé.
Alors, c'est une très bonne chose que vous le mentionniez, parce que c'était lié à ma prochaine question. Donc, vous avez très probablement entendu parler de la polémique qui entoure cette fameuse estimation des logements vides au Luxembourg. Est-ce que vous êtes d'accord avec le directeur de l'Observatoire de l'Habitat qui a récemment affirmé qu'on ne savait tout simplement pas combien de logements on avait au Luxembourg, tout court? Et dans ce contexte, je pense que la pierre angulaire, même des réformes que vous préparez, hein, que ce soit l'impôt foncier, que ce soit les logements inoccupés, alors on sait que le projet a été scindé, mais est-ce que la pierre angulaire donc, de tout ça, c'est pas un petit peu le registre national des logements et des bâtiments? Parce que quand le Luxembourg saura combien de logements il a sur son, sur son territoire, ça sera plus facile d'aller imposer et d'aller... titiller les propriétaires réfractaires.
Pour plusieurs raisons. C'est une évidence qu'il faut savoir combien de logements on en a, combien on devrait en avoir, combien de logements sont inoccupés, parce que sinon on ne peut pas développer une politique concrète. Et c'est ça un des problèmes avec lequel je suis confronté actuellement, et tous mes prédécesseurs étaient confrontés aussi. C'est pour ça que on soutient toute démarche à avoir plus de clarté sur la situation de l'immobilier au Luxembourg. Je crois que l'Observatoire de l'Habitat fait déjà aujourd'hui un très bon travail. Mmh. On a une très bonne vue aujourd'hui sur l'évolution des loyers. On parle même d'un cadastre des loyers. Il y a encore des pas à faire, mais quand même, on se dirige dans cette direction. On a une idée très précise quand même de la situation des prix d'acquisition, des valeurs, des objets au niveau des objets neufs, mais aussi des occasions. Donc là, l'Observatoire nous sert déjà beaucoup aussi dans la conception et la définition de nos politiques. Mais c'est évident qu'il faudra à un certain moment avoir ce registre national de logement pour aussi voir quel logement est-il occupé et pour aussi aller encore une fois plus loin. J'ai parlé maintenant de la gestion locative sociale. C'est un mécanisme pour encourager les propriétaires de logements inoccupés justement pour les donner en location. Mm-hmm. Mais à un certain moment où ça ne fonctionne plus, il faut peut-être trouver d'autres moyens et alors justement les imposer quand ils ne sont pas prêts
la fameuse imposition
à donner
sur
en location.
Les logements vides.
Oui, tout mm-hmm. à fait. Justement parce que quelqu'un qui garde un logement pour soi et n'en a pas besoin, je crois que c'est tout à fait logique de le faire contribuer à la cause publique d'une autre manière, mm-hmm. par une imposition de ce logement qui n'est pas occupé. Quand il a vraiment des raisons personnelles qui sont tellement, qui pèsent tellement lourdes qu'il ne veut pas donner son objet en location, son logement en location, alors c'est clair qu'il devra payer une certaine taxe justement pour compenser cela, et cela également dans une situation que nous vivons maintenant, mais qu'on vit déjà pendant un certain temps, qu'on a besoin vraiment de chaque logement au Luxembourg.
Donc on le rappelle encore une fois pour nos auditeurs, l'imposition sur les logements non occupés ça a été remise à plus tard parce qu'il va falloir ce registre pour pouvoir la mettre en œuvre. On est bien d'accord. Je me permets de rebondir sur cette question parce qu'il y a eu une collègue de votre parti qui s'est récemment prononcé très très en défaveur de ce registre. Est-ce que vous seriez disposé à m'expliquer pourquoi est-ce qu'on pourrait, en tant que bourgeoise de la ville de Luxembourg, s'opposer à ça?
Et est-ce que vous lui avez parlé? Vous avez
pas
entendu
encore.
Ça? Pas encore, mais moi je lui ai parlé, bien évidemment. Non, il n'y a pas de grande divergence là entre Lydie Polfer et moi-même, justement parce qu'elle a certaines craintes, elle a fait certaines expériences aussi avec la ville de Luxembourg. Elle dit aussi, on veut justement avoir ce registre. Mmh. Elle, en tant que bourgmestre de la ville de Luxembourg, dit aussi, moi je veux savoir quel logement se trouve sur mon terrain, quel logement est occupé et n'est pas occupé. Et elle avait même déjà, la ville de Luxembourg l'avait déjà lancé, un tel processus qui a été arrêté par un jugement des tribunaux. Et pour ça, c'est très normal qu'elles indiquent des questions techniques. Mmh. qu'il faut respecter. Elle est membre de la commission des affaires intérieures, elle est membre de la commission du logement, donc elle pourra largement contribuer avec son expérience pour affiner ce texte législatif qui entrera en discussion aux commissions parlementaires sous peu, parce que je suis aussi d'avis qu'il faut avoir une bonne et claire définition de ce qui est un logement. Mmh. Ce qui est un logement non occupé, à partir de quand est-ce qu'un logement est considéré non occupé? Qu'est-ce qu'on fait avec des logements qui se trouvent, des immeubles qui se trouvent dans des zones mixtes où on peut intégrer des bureaux, mais aussi des logements? Mmh. Est-ce que ça compte alors comme logement non occupé quand il y a un bureau qui a loué cette surface ou pas? Donc tout ça sont des questions qui ont été énoncées par Lydie Polfer, et je suis tout à fait d'accord avec elle qu'il faudra trouver des réponses assez claires justement pour permettre par après aux administrations communales, parce que ce sont les administrations communales qui doivent gérer tout ça, d'avoir une clarté dans toutes ces questions et une vue très très précise sur ce qui sera leur mission.
Alors, encore une dernière question, elle est un peu plus d'ordre personnel. Vous êtes aujourd'hui ministre du logement, vous êtes ministre de l'aménagement du territoire, vous êtes ministre aussi de l'éducation. C'est probablement les portefeuilles les plus complexes, les plus lourds à porter. Comment est-ce qu'on fait en tant que monsieur Claude Maïch pour gérer une charge de travail aussi importante?
je crois que être ministre, c'est toujours complexe, c'est toujours un défi. Il y a toujours des questions importantes qui sont à trancher. Il y a toujours des attentes de l'opinion publique. Il y a toujours la population qui a des besoins. Bien évidemment, en ce qui concerne le domaine de l'éducation, mais aussi du logement, il y a des besoins très concrets pour le Luxembourg. Et c'est en fait, c'est la même situation qu'on retrouve dans les deux domaines. Il faut transformer notre système éducatif pour répondre à la diversité de notre population, qui est due à notre succès économique, qui est due à la croissance démographique. Et quand on parle de croissance démographique, de l'autre côté, la question du logement, elle a aussi son rôle à jouer. Personnellement, je suis d'avis, je me sens vraiment à l'aise dans ces deux portefeuilles, justement parce que j'ai des équipes magnifiques qui travaillent très très bien, qui travaillent jour et nuit et qui acceptent aussi ma méthode de gestion d'un ministère. Moi, au début, je disais, c'est pas moi qui donne des cours le matin et qui construit des maisons l'après-midi. C'est plutôt moi qui dois prendre des décisions, qui dois organiser des majorités, qui dois faire avancer les débats publics, qui dois communiquer et convaincre le grand public de ce qu'on fait. Qui doit aussi être en relation avec les différents secteurs, les différents acteurs, justement, pour avoir un retour et avoir toujours une idée très précise des attentes du public, surtout. Il faut, en tant que ministre, avoir des équipes sur lesquelles on peut bâtir, et ça, c'est le cas aussi bien pour le ministère de l'Éducation que pour le ministère du Logement, où je me sens vraiment à l'aise avec ces deux responsabilités.
Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur le ministre, encore une fois, merci d'avoir participé à la Bulle Humo. Ce n'est pas la première fois que vous êtes parmi nous. À nos auditeurs, on se retrouve très vite pour un épisode consacré au prix de l'immobilier. Merci.
Merci à vous.